There's four of them. 1 o'clock high.
They're coming around. Watch.
Too fast. 6 o'clock up. Coming in. Diving out, Chief.
He said be in trouble out at 2 o'clock. Watch it.
Got an engine on fire.
There's two more diving through the 94th.
Three planes, 9 o'clock. Coming around. Keep your eye on the boy.
The 10.
Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait du film Memphis Belle de 1944, réalisé par William Wyler. L'enregistrement est authentique. Comprenez qu'il a effectivement été enregistré dans le fuselage d'un bombardier B-17 en mission au-dessus de l'Allemagne. Il y a tout, en fait, dans cet extrait, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité ouvrir cet épisode avec celui-ci. On entend le bruit des mitrailleuses qui tentent de repousser les attaques des chasseurs allemands. On entend également qu'un appareil ami est en difficulté. Plus tard dans le film, d'ailleurs, cet appareil sera abattu et l'équipage devra sauter en parachute. On entend surtout les voix anxieuses des membres d'équipage qui résonnent dans l'interphone et qui se retiennent de crier. En un peu moins de 30 secondes, vous avez en fait un excellent aperçu à la fois de la singularité de l'expérience de ces équipages, mais aussi et surtout de ce qui rendait leur quotidien et leur mission aussi dangereuse. En effet, si je vous demandais à votre avis quel était le corps d'armes qui a subi le plus de pertes durant toute la Seconde Guerre mondiale au sein de l'armée américaine, il y a de fortes chances que vous me répondiez que ce sont les Marines qui se sont battus avec acharnement sur des bouts de terre perdus dans le Pacifique face aux Japonais. Et effectivement, la fiction a abondamment commenté ce versant des choses. En réalité, ceux qui, au sein de l'armée américaine, ont payé le plus lourd tribut durant toute la guerre, autrement dit, la branche que vous ne deviez pas sélectionner si vous souhaitiez survivre statistiquement, c'était bel et bien les équipages de bombardiers américains au sein de la 8e Air Force. Je pense que, pour le coup, les chiffres permettront de mieux saisir cette réalité. Au total, 350 000 hommes ont servi au sein de cette dernière. Parmi ceux-ci, 26 000 ont été tués et 28 000 faits prisonniers. En termes de mortalité, on est très exactement à 7,42%. Et si on ne prend en compte que le personnel navigant, c'est-à-dire ceux qui étaient à bord des appareils, ce taux monte à 12,38%. Ce qu'il faut noter, c'est que, à l'époque, et jusqu'en 1947, la force aérienne américaine appartient en réalité à l'US Army. Et l'US Army, in globo, connaît un taux de perte de 2,25%. On a donc une surreprésentation de la mortalité au sein de ce qu'on appelle à l'époque l'Air Corps. Et au regard des autres branches de l'armée américaine, cette surmortalité est également avérée. L'US Navy enregistre ainsi un taux de mortalité de 0,41%, et les Marines, dont je viens de parler, enregistrent quant à eux un taux de mortalité qui tourne autour de 3,2%. Enfin, pour que vous puissiez mettre les choses en perspective, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont perdu 418 000 hommes. C'est-à-dire que près d'un mort sur 20 était en fait un membre de la seule 8e Air Force. Dans ces circonstances, il n'est pas très surprenant que la fiction ait décidé de s'intéresser à intervalles réguliers, que ce soit par des films ou des séries, au quotidien de ses aviateurs et de ses membres d'équipage plus généralement. On reviendra d'ailleurs un peu plus tard dans cet épisode sur certaines œuvres assez emblématiques, mais on va surtout s'attarder sur la dernière d'entre elles, puisque si vous êtes férus de séries télé et ou, plus spécifiquement, de la série Band of Brothers et de Pacific, qui a été un peu présentée de manière un petit peu indue comme la suite de cette dernière, vous avez sans doute vu passer sur Apple TV la série Masters of the Air, toujours pilotée par le tandem Tom Hanks-Steven Spielberg, et qui, à l'heure d'enregistrer cet épisode, est en train progressivement de toucher à sa fin. Cette série, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité réaliser cet épisode. En effet, elle met en lumière une dimension de la Seconde Guerre mondiale qui, somme toute, est assez méconnue du grand public, non pas tant pour les images qu'elle véhicule. On a tous vu les images des boxes de forteresses volantes défilant au-dessus de l'Allemagne, on sait tous que l'Allemagne a été abondamment bombardée, mais en réalité, le grand public a tendance à oublier à quel point cette doctrine a été d'une part tâtonnante, balbutiante, et que la question de son impact effectif est aujourd'hui largement discutée, que ce soit au regard des pertes de la 8e Air Force, qui a apporté l'essentiel de cet effort du côté américain entre 42 et 45, mais également au regard des pertes civiles engendrées par ces raids. Dans cet épisode, nous allons tout d'abord commencer par revenir sur les fondements doctrinaux à l'origine de ces bombardements, à savoir donc la question du bombardement stratégique, en nous attardant notamment sur les écrits de Giulio Douai au début des années 20. Dans un deuxième temps, on reviendra sur la chronologie des opérations menées par la 8e Air Force. On reviendra ainsi sur certains temps forts qui sont aujourd'hui encore marqués d'une pierre noire dans l'histoire de l'aviation américaine, que ce soit le raid sur Schweinfurt, que ce soit les raids sur Berlin, les opérations menées durant ce qu'on a appelé la Big Week, etc. Cette chronologie terminée, il m'apparaît important ensuite de faire une sorte de bilan et de revenir un petit peu sur la controverse que j'évoquais il y a quelques secondes, à savoir est-ce que ces raids ont été utiles et dans quelle mesure ils ont eu des effets. Après ce retour un peu désincarné, on va totalement changer la focale et cette fois-ci rentrer dans le fuselage de ces bombardiers, s'intéresser au quotidien des navigateurs, des pilotes, des mitrailleurs, mais aussi des équipes au sol, et voir un petit peu ce que concrètement était cette expérience d'être membre d'équipage. Quels étaient les dangers auxquels vous faisiez face, quelles étaient vos routines, comment est-ce que vous appréhendiez finalement cette expérience à chaque fois singulière qui était un raid au-dessus du territoire occupé. Ce côté à vue d'homme sera d'ailleurs, je pense, une transition parfaite pour revenir et conclure sur la série Masters of the Air. Dans un premier temps, je vais donner mon avis tout personnel. Rassurez-vous, ça ne durera pas longtemps. Avant de, quelque part, le remettre un petit peu dans une perspective plus large par rapport à d'autres œuvres qui ont déjà pu être produites sur le sujet, afin de voir un petit peu quel est son apport au niveau purement fictionnel. Je suis Simon Desplanque, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passé Ressuscité, le podcast frère de 20 minutes pour comprendre, qui revient sur les usages et mésusages du passé à des fins politiques. D'abord, comment en est-on arrivé là? Comment en est-on venu à se dire qu'on allait déployer des flottes de bombardiers au-dessus du territoire ennemi dans l'espoir de l'emporter? Eh bien, en fait, pour ça, il faut remonter au début des années 20 avec la conceptualisation de ce qu'on a appelé le bombardement stratégique. Le bombardement stratégique, c'est quoi? En très bref, c'est une doctrine militaire qui vise à utiliser l'arme aérienne pour pénétrer très loin dans le territoire ennemi en poursuivant un double objectif. Premièrement, détruire son potentiel industriel, mais aussi saper la détermination de l'ennemi et de sa population à combattre. Il y a quelque chose d'un peu visionnaire dans cette doctrine. En 1920, les avions sont encore à un stade relativement embryonnaire de leur développement. Pourtant, certains pressentent que, grâce à cet outil, on va pouvoir à terme attaquer de front à la fois les ressources matérielles, mais également les ressources humaines, et en particulier en ciblant le moral de la population. S'il n'y a qu'un nom à retenir, eh bien c'est celui de Giulio Douai. Alors il y en a d'autres, hein, il y a Billy Mitchell, il y a Hugh Trenchard du côté britannique, mais véritablement Giulio Douai est le premier à conceptualiser cette doctrine, et il encourage, il enjoint les États à se doter de vastes flottes de bombardiers pour rapidement acquérir la suprématie aérienne. La pièce maîtresse du dispositif qu'envisage Douai, c'est véritablement les bombardiers qui volent à haute altitude, c'est-à-dire hors de portée à l'époque de ce qui est la DCA, la défense contre les avions, donc les canons anti-aériens, et qui sont également lourdement armés pour décimer les chasseurs ennemis qui voudraient les attaquer. Première précision importante, à l'époque, on est dans la théorie pure, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mise en œuvre. On crée la théorie avant d'avoir des preuves empiriques qui confirmeraient la validité de la doctrine. Première chose. Et deuxième chose, il y a beaucoup d'optimisme de la part de Douai, parce que à l'époque, je ne vais pas rentrer dans les détails de la conception des avions, mais on se dit qu'effectivement, il est possible qu'un bombardier aille plus vite que les chasseurs. Ça n'est pas absurde de penser ça au début des années 20, voire à la fin de cette décennie. Par contre, dans le courant des années 30, on va voir que les chasseurs monomoteurs s'améliorent de plus en plus et clairement peuvent dépasser en vitesse la plupart des bombardiers qui seront mis en service à l'époque. Je ne rentre pas dans les détails, il y a plein de podcasts que je vais vous recommander à la fin de cet épisode qui vous permettront de mieux appréhender les développements de cette époque. Mais simplement, ici, donc, il y a un pari technologique qui, vous vous rendez compte, est un peu audacieux au regard de ce qui va se passer à peu près 20 ans après l'énonciation de la doctrine du bombardement stratégique. Ce qui est intéressant dans notre histoire, c'est que cette doctrine, si elle est conceptualisée en Italie, eh bien en fait, elle va surtout connaître un succès dans le camp des alliés, des futurs alliés de la Seconde Guerre mondiale. En effet, à la fin des années 30, il n'y a que deux pays qui s'intéressent vraiment à la question du bombardement stratégique, le Royaume-Uni et les États-Unis. En Allemagne, il y a eu un grand défenseur du bombardement stratégique, son nom c'était Walter Weber, mais il meurt en 1936, et il va être rapidement éclipsé au niveau doctrinal par deux partisans de ce qu'on appelle le bombardement tactique, à savoir Ernst Udet et Hans Jeschenek, qui sont tous les deux de farouches défenseurs du Stuka, le fameux bombardier en piqué, l'appareil qu'on associe généralement dans l'inconscient collectif à la doctrine de la Blitzkrieg. Et aux États-Unis, la foi en cette doctrine, parce que oui, jusqu'à présent c'est toujours du stade de la croyance, va mener à la conception de deux véritables légendes de l'histoire de l'aviation. Et je vous invite vraiment à regarder sur Google Images les avions dont je vais vous parler, parce que, pour le dire un peu vulgairement, ils ont tous les deux vraiment de la gueule. D'une part, la forteresse volante, le Flying Fortress, le B-17, produit par Boeing, et d'autre part, le B-24 Liberator, produit par la firme Consolidated, qui jusqu'à présent s'était surtout fait connaître pour ses hydravions, dont le fameux PBY Catalina. Aujourd'hui encore, ce sont deux avions qui ont chacun leurs partisans acharnés. Les amoureux du B-17 vont vous dire que d'une part, il est plus beau, il a des lignes un peu plus aérodynamiques, c'est pas faux, et également qu'il était plus sûr, parce qu'effectivement, le B-24... avait une réputation d'être plus difficile à piloter, et il avait un taux de crash, un taux d'accident en fait, un petit peu plus supérieur à celui du B-17, il est vrai. Le B-24, par contre, pouvait porter plus de bombes, était plus rapide, et pouvait aller plus loin, raison pour laquelle il a largement été utilisé dans le Pacifique avant l'arrivée progressive des fameux Boeing B-29 Super Fortress, et qui sont donc l'appareil qui larguera la bombe atomique en août 45 à Hiroshima, puis à Nagasaki. Depuis le début de l'épisode, j'ai adopté une focale relativement US, et c'est normal puisque la série Masters of the Air parle donc de la 8e Air Force et du quotidien de ses équipages. Pourtant, au début de la Seconde Guerre mondiale, ce sont bien les Anglais qui, avant même l'invasion de mai 1940, vont tenter de mettre en œuvre cette doctrine. Si aujourd'hui on a tendance à associer au raid de la Royal Air Force des images d'attaque nocturne, en réalité, au début de la guerre, celle-ci va effectivement tenter ce que les Américains vont mettre en œuvre à grande échelle entre 1942 et 1945, à savoir des attaques de jour. Seulement, très rapidement, la situation va mal tourner. Et le meilleur exemple des impasses de cette doctrine aux yeux des stratèges de la Royal Air Force, c'est ce qu'on a appelé la bataille de la baie d'Heligoland en décembre 1939. À cette époque, 24 bombardiers Vickers Wellington, des bombardiers britanniques bimoteurs mais à long rayon d'action, vont tenter d'attaquer la ville de Wilhelmshaven. Sur ces 24 appareils, et soit dit en passant, le chiffre est dérisoire par rapport au raid de la moitié et la fin de la guerre, 12 vont être abattus essentiellement par la chasse allemande. Très rapidement, les stratèges britanniques tirent comme conclusion qu'il est illusoire de vouloir frapper le territoire allemand de jour, et vont basculer, à quelques exceptions près, il y aura encore des tentatives de bombardement de jour, mais très très rares, vers la doctrine de bombardement nocturne, dite de zone. Avant d'expliquer en quoi consiste cette stratégie que les Anglais vont développer, pourquoi cet échec ? Tout simplement parce que les Anglais ne disposent pas d'un appareil approprié en nombre suffisant. Le bombardier qui, véritablement, du côté anglais, va matérialiser la doctrine du bombardement stratégique britannique, c'est le Avro Lancaster, et il n'est véritablement disponible en quantité suffisante qu'à partir de 1942, parce que c'est là aussi le problème, les Anglais n'ont tout simplement pas assez d'appareils à aligner pour mener à bien les missions de bombardement au-dessus de l'Allemagne. Et donc, face à cette impasse, les Anglais se concentrent sur le bombardement de zone. Comprenez, frapper de larges zones de manière débridée. Il n'y a aucune distinction dans ces frappes entre les infrastructures civiles et les infrastructures militaires. Et le moment qui incarne parfaitement cette doctrine et dans toute sa brutalité, c'est ce qu'on a appelé le premier Millennium Raid sur Cologne le 30 mai 1942. Alors pourquoi Millennium Raid ? Tout simplement parce que les Anglais vont sortir, bon an mal an, plus ou moins 1000 appareils. On va même sortir des appareils mis au rebut, comme le Hampden par exemple, un des premiers bimoteurs que les Anglais avaient employés, pour frapper Cologne et atteindre le nombre symbolique de 1000 avions. Et l'effet symbolique est très fort, puisque Adolf Galland, plus tard, donc l'un des patrons de la chasse allemande, pour résumer, écrira plus tard dans ses mémoires, intitulé « Jusqu'au bout sur Messerschmitt », que si les Anglais avaient été capables de poursuivre sur cette lancée, il y aurait pu y avoir, alors il n'est pas très précis, mais c'est intéressant à lire quand même, il aurait pu avoir une inflexion du cours de la guerre. La question de savoir s'il exagère ou s'il extrapole n'est pas tellement intéressante ici, ce que ça montre surtout, c'est que ce raid a quand même marqué un temps fort dans le cadre de la stratégie de bombardement stratégique et qu'à tout le moins il est parvenu à impressionner tant les opinions publiques britanniques qui voyaient une revanche pour le Blitz sur Londres de 1940 que les opinions publiques allemandes qui jusque-là vivaient dans l'idée que le territoire allemand était virtuellement protégé et inaccessible pour les forces aériennes ennemies. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cette vision, cette doctrine, elle est solidement ancrée et déjà bien rodée du côté britannique lorsqu'en 1942, les Américains commencent à arriver dans le sillage donc de l'attaque sur Pearl Harbor et de l'entrée en guerre des États-Unis, sur le sol anglais. Néanmoins, les Américains sont extrêmement sceptiques à l'égard de cette approche. Alors, pour deux raisons en réalité, on va un peu schématiser ici, mais la première c'est qu'il y a une forme de répugnance morale à l'égard de cette pratique, et notamment le chef du Bomber Command, donc au sein de la Royal Air Force, la composante qui se charge du bombardement stratégique, qui s'appelle Arthur Harris, est parfois surnommé Arthur Bomber Harris ou Butcher Harris. Et parfois même par ses propres équipages, mais aussi par les Américains. Alors pourquoi cette répugnance morale ? Parce que plusieurs des cibles stratégiques, notamment les bases de U-boat, les sous-marins allemands, ne sont pas situées en Allemagne, mais elles sont situées dans les pays occupés, comme la France, la Norvège. Et donc on risque de s'aliéner le soutien de populations qu'on est censé quand même devoir libérer dans un futur plus ou moins lointain. Et deuxième chose, d'un biais technologisant ici très fort, les Américains sont persuadés que leur outil, les bombardiers B-24 et B-17, sont meilleurs grâce à un dispositif. C'est le viseur des bombardiers, le viseur Norden, qui est, à l'époque, vendu comme presque une arme miracle, en termes de précision, au point que se développe la légende de ce qu'on appelle en anglais le pickle barrel bombing, à savoir donc que ce dispositif, comme son nom l'indique, aurait permis de loger une bombe dans un bocal de cornichon à des altitudes absolument inouïes pour l'époque, on parle de 4-5 000 mètres, pour votre parfaite information. Il n'est pas rare, lors de certains raids, que ces bombardiers opèrent à plus de 9 000, 10 000, voire 11 000 mètres d'altitude. La réalité, elle est évidemment tout autre. Si, en conditions d'entraînement et dans des conditions météorologiques parfaites, il est effectivement possible d'atteindre des cibles avec une très grande précision, dès lors que vous êtes dans des conditions météorologiques différentes, et je pense ici au Pacifique, où vous avez parfois de forts vents d'altitude de plus de 400 km/h qui font totalement dévier vos bombes, ou que vous êtes en conditions de combat et que vous avez le stress, que vous avez l'inexpérience également qui parle dans les premiers mois de la guerre, ce degré de précision, il est totalement illusoire à atteindre. Pour juste vous raconter une anecdote, Pierre Klosterman, dont on a déjà parlé dans l'épisode sur les As, racontait dans son Grand Cirque, donc son livre phare qui retrace un peu ses mémoires de guerre, qu'à un moment donné, les bombardiers B-17 avaient été mandatés pour bombarder un aérodrome allemand situé dans le nord de la France, et qu'en réalité, à peine quelques bombes avaient touché l'aérodrome, par contre les vaches du champ d'à côté avaient toutes été tuées. Au-delà de la petite histoire, on voit vraiment qu'en réalité, il y avait un problème de rodage, et que c'était loin d'être une arme miracle, ce fameux viseur Norden, même si la personne en charge du bombardement, donc le bombardier au sein du bombardier, si vous voulez, avait pour mission de détruire le viseur Norden en cas de crash, pour éviter que les Allemands ne mettent la main sur ce qui est toujours considéré comme une arme révolutionnaire. Les États-Unis, en particulier l'armée américaine, confient donc à la 8e Air Force la charge de mener le bombardement stratégique diurne. Pourquoi 8e Air Force ? Eh bien tout simplement parce que l'Air Corps, donc la composante aérienne de l'US Army, est divisée en différentes force aérienne numérotée, et le théâtre de l'Europe occidentale revient spécifiquement, en termes de bombardement stratégique, à la 8e. Plus tard, courant 43, vous allez avoir l'arrivée en Angleterre de la 9e Air Force, qui elle s'occupera plutôt du bombardement tactique, mais c'est une autre histoire. L'état-major de la 8e arrive en janvier, mais elle ne commence véritablement ses opérations qu'à partir de juillet, et fait intéressant, en juillet, en fait, ce sont des bombardiers britanniques qui sont utilisés pour mener ces missions. Il faut attendre le 17 août 1942, pour qu'une première mission soit menée avec des bombardiers B-17 sur la gare de triage de Rouen-Sotteville, avec à leur tête, fait intéressant, celui qui commande le lead bomber, le bombardier de tête, un certain Paul Tibbets, celui-là même qui, le 6 août 1945, larguera donc la bombe atomique sur Hiroshima. Les raids vont se poursuivre tout au long de l'été et puis de l'automne 1942, mais on parle toujours d'effectifs très faibles. La première mission, donc, sur Rouen-Sotteville, comprenait 12 appareils. Et à la fin du mois de décembre 1942, après que plusieurs frappes aient été menées, notamment sur les bases de U-boat, à Saint-Nazaire, à Lorient, etc., la 8e Air Force ne compte que 240 appareils en Angleterre. En 1943, au début de l'année, la 8e poursuit ses frappes sur les bases de sous-marins, et en réalité, aujourd'hui, on sait que les effets de ces frappes n'ont pas été particulièrement importants. On estime qu'environ 2/3 des bombes larguées sur ces installations n'ont que peu ou pas touché ces dernières. À cela s'ajoute un autre problème, c'est que dès la fin de l'année 42, début de l'année 43, la Luftwaffe prend sérieusement conscience de la menace, comprend que l'Allemagne n'est plus invulnérable et renforce son dispositif de chasse, tout en mettant au point de nouvelles tactiques, dont les fameuses passes frontales. C'est-à-dire que pour attaquer ces bombardiers, on décide désormais de les attaquer par le point le plus vulnérable, qui est le cockpit. Et donc vous avez des Messerschmitt 109 et les Focke-Wulf 190 allemands qui vont désormais cracher leurs obus de 20 mm droit dans le nez des appareils, et ce n'est pas un hasard si le poste le plus dangereux dans un bombardier B-17, enfin le deuxième poste le plus dangereux, était en fait celui de bombardier, puisque le bombardier est directement dans le nez en plexiglas de l'appareil et était le premier à essuyer ses feux. L'année 1943 va constituer une véritable rupture, parce qu'elle va marquer l'essor de ce que l'on appelle les opérations combinées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusqu'alors, les Britanniques et les Américains opéraient plus ou moins en parallèle et s'ignoraient un peu superbement. Les choses commencent à changer avec la conférence de Casablanca de janvier 1943. Alors bon, c'est une conférence au cours de laquelle on discute de plein d'autres choses que du bombardement stratégique, ce n'est pas le sujet. Mais à l'issue de celle-ci, est émise ce qu'on appelle la directive Casablanca, qui a pour objet, et je cite, « la destruction progressive et la dislocation des systèmes militaires, industriels et économiques allemands, ainsi que l'affaiblissement du moral du peuple allemand à un point où leur capacité de résistance armée soit irrémédiablement affaiblie. Toutes les occasions doivent être saisies pour attaquer l'Allemagne de jour, pour détruire les objectifs qui ne peuvent pas être attaqués de nuit, pour maintenir une pression continue sur le moral des Allemands, et imposer de lourdes pertes aux forces de chasse de jour allemandes, et pour conserver la chasse allemande loin des théâtres de guerre russes et méditerranéens. » Implicitement, le partage des tâches entre Anglais spécialisés dans le bombardement nocturne et Américains, bombardement diurne, est ici évoqué, mais le problème de cette directive, c'est qu'elle ne donne pas de plan précis. Il va en fait falloir attendre juin 43, donc 5 mois supplémentaires, pour voir arriver le premier plan concret qui vise un peu à se répartir les tâches entre les différents états-majors. Le 14 juin est publié ce qu'on appelle la directive Point Blank, à bout portant en français, qui place en priorité numéro 1 l'obtention de la suprématie aérienne et l'élimination de la Luftwaffe. Le but de cette directive est en fait d'acquérir la suprématie aérienne en vue de l'invasion de l'Europe que l'on estime à venir pour l'année 1944. Pour ce faire, la directive désigne plusieurs objectifs principaux. D'une part les usines aéronautiques, là où on construit les avions, mais également elle identifie différents goulots d'étranglement potentiels, c'est-à-dire des infrastructures critiques qui, si on venait à les détruire, pourraient compromettre gravement toutes les chaînes de montage. Et aujourd'hui, on a le parallèle assez évident avec les semi-conducteurs. Ce sont des composants qu'on retrouve dans tous les appareils de la vie de tous les jours, mais également des composantes militaires cruciales. Et bien là, à l'époque, ce qu'on identifie comme étant le point critique pour l'industrie allemande, ce sont les roulements à billes, qui sont des pièces utilisées absolument partout, aussi bien dans l'aviation que dans les chars, les voitures, etc. Cette insistance sur l'importance des roulements à billes donnera lieu à la mission qui est souvent considérée comme un point de bascule, la mission numéro 84, aussi connue sous le nom de double raid Schweinfurt-Regensburg ou Ratisbonne en français. L'objectif de cette mission, qui a lieu le 17 août 43, donc pour les 1 an quelque part de la première opération de la 8e Air Force, est de détruire d'une part l'usine des roulements à billes de Schweinfurt ainsi que les usines Messerschmitt de Regensburg-Ratisbonne. Ce sont deux cibles qui sont situées au cœur de l'Allemagne, largement hors de la portée de la protection des chasseurs d'escorte, qui sont à l'époque essentiellement des Spitfire et des P-47 Thunderbolt. Le jour J, vous allez donc avoir 376 bombardiers B-17 qui vont décoller et se retrouver rapidement sans protection au-dessus des territoires occupés, puis de l'Allemagne. L'opposition de la chasse allemande est terrible. Seuls 315 vont pouvoir atteindre la cible, et près de 60 appareils seront perdus pour l'occasion. On est à un taux de perte de 16%. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un appareil perdu, c'est 10 hommes qui ne rentrent pas. En outre, à ces 60 appareils définitivement perdus, vous en avez également une petite dizaine qui est endommagée beyond repair. Pour le dire autrement, ce sont des épaves, les équipages à bord ont eu énormément de chances de rentrer, mais l'appareil est destiné désormais à la casse. L'impact de ce raid est tel qu'il y a pendant plusieurs semaines un moratoire qui a lieu sur les attaques diurnes au-dessus de l'Allemagne. Néanmoins, très rapidement, les frappes vont reprendre, et le 14 octobre 1943, donc 2 mois à peine après ce raid catastrophique, Schweinfurt est à nouveau attaqué, à nouveau, au prix de pertes terribles. Et ce qu'on constate, c'est que ces infrastructures de roulement à billes sont non seulement difficiles à détruire, mais il semble qu'elles ne soient pas si critiques que ça pour contraindre l'effort de guerre allemand. Le moral des équipages est donc au plus bas en cette fin d'année 1943, et l'année 1944 ne semble pas apporter de réelles perspectives d'amélioration, puisqu'aucune rupture ne semble se dessiner. C'est sur cette note un peu amère que je vous laisse aujourd'hui. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre tour d'horizon chronologique. Nous reviendrons ensuite sur le bilan de ces opérations de bombardement, voir dans quelle mesure le bombardement stratégique a effectivement fonctionné au cours de la guerre, quels ont pu en être les effets, avant d'adopter cette fois-ci une perspective totalement différente, de monter dans le cockpit et de terminer par une réflexion sur la série Masters of the Air et la représentation du bombardement stratégique dans la fiction. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt !